L'invité du matin.
Mon invité ce matin, c'est Alexandre Lebéchec de la ferme de Kéréderne à Trédarzec. La ferme de Trédarzec, hein, c'est avant tout une histoire de famille, celle donc d'Alexandre, mais aussi son père Alain. Ils sont accompagnés de 10 salariés. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alors vous intervenez aujourd'hui sur Millennium pour parler de vos serres, hein, qui ont subi de gros dégâts avec la tempête, mais aussi vous représentez un petit peu tous les maraîchers qui ont tout perdu. On n'est pas habitué à ce genre de tempête. Les installations de serres ne sont pas assez solides pour résister à des rafales de la vitesse de la tempête de Kiaran.
Non, c'est vrai que j'aurais aimé intervenir pour d'autres raisons, mais là, on a subi une tempête qui était la plus grosse depuis plus de 20 ans. Et c'est vrai que nos structures, qui sont aujourd'hui hyper importantes pour faire notre année de récolte, sont quasiment toutes détruites, ouais. Sur toutes les Côtes d'Armor et le Finistère, on a tous eu des impacts assez lourds sur l'exploitation.
La plupart de tous les maraîchers n'avaient pas connu de tels problèmes depuis tant d'années ?
Non, on a des collègues qui nous parlent de 87, 99,
ouais.
Mais depuis, il n'y avait pas vraiment eu d'intempéries de cette ampleur.
Combien de serres ont été détruites chez vous ?
Alors, chez nous, sur 11 tunnels, on peut déplorer 7 tunnels détruits.
D'accord.
Les 4 autres sont à reconstruire, en tout cas renforcer pour pouvoir les réutiliser plus tard.
Et justement, avant cette tempête, vous aviez tout fait pour renforcer les structures ?
Bon, on fait le maximum, mais après, de toute façon, on aurait pu passer toutes les heures qu'on voulait sur ces structures-là. On n'aurait jamais pu les renforcer suffisamment pour que ça résiste.
Ouais.
On se rend compte que plus les structures étaient solides, plus les bâches étaient neuves et plus elles ont pris toute la force du vent et se sont d'autant plus détruites.
Alors ces serres n'étaient pas assurées, ou plutôt vous ne pouvez pas les assurer. Il n'y a aucune assurance qui veut assurer ce type de structure.
Alors certaines assurances acceptent moyennant un tarif assez élevé d'assurer ce genre de structure, mais les petits tunnels comme ça sont considérés comme trop fragiles, ou du moins, on va dire, les bâches sont considérées consommables avec une vétusté hyper rapide de 7% par trimestre. Donc finalement, au bout de 2-3 ans, le matériel est considéré comme vétuste et n'est plus assuré. En tout cas, moi, la société d'assurance à laquelle je fais appel ne voulait pas assurer ces structures. Non.
Ouais. Et alors justement, ce type de structure, ça a une durée de vie de combien de temps sans tempête comme ça ?
Bah, la structure métallique, elle n'est pas éternelle puisqu'elle subit quand même toutes les petites tempêtes tous les ans. Mais il faut considérer qu'on peut la garder 20 à 30 ans. Et les bâches, on considère 8 ans avant de changer les bâches, quoi, pour
qu'il y ait
encore leur effet réchauffant et diffusant au niveau de la lumière.
Vous l'aviez changé il y a quelques temps déjà ou pas ?
Nous, on avait deux séries de bâches, des bâches de 6 ans et des bâches de 2 ans.
D'accord.
Donc les bâches de 6 ans, voilà, c'est tant pis si ça craque, c'était bientôt à changer et c'est prévu dans les finances de l'entreprise. Les bâches de 2 ans, par contre, c'est la pure perte. Et c'est d'ailleurs celles-là qui ont résisté le plus au vent et qui ont du coup emporté la structure avec elles.
D'accord. Oui, parce qu'il n'y a pas que les bâches, il y a aussi toute la structure.
Le plus gros problème, c'est d'avoir perdu la structure. Oui.
Ouais. Alors, le préfet des Côtes d'Armor est passé dans la ferme de Guillaume Troidec. Pour le moment, il ne peut que constater. Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous aider aujourd'hui ?
Bah, il faudrait que l'État, le ministère de l'Agriculture ou je ne sais qui décide de débloquer une enveloppe qui serait suffisamment importante pour pouvoir nous donner un coup de pouce. Aujourd'hui, on parlait d'1 million d'euros.
Il faut savoir, c'est la région qui a débloqué ça, ouais.
Ouais, il faut savoir que sur une ferme comme la nôtre, si on considère le prix de la reconstruction juste pour la structure métallique, sans prendre en compte les bâches, comme je disais, qui étaient peut-être plus consommables, juste pour la structure métallique, on considère 20-25 euros du mètre carré. Donc pour nous qui avons perdu 3000 mètres carrés, on est déjà à 60 000 euros.
Ouais.
Finalement, donc, 1 million, on y arrive vite, sachant qu'il y a des centaines de fermes qui ont été impactées.
C'est ça.
Voilà, donc on serait plus sur une échelle de 100 millions que sur 1 million, quoi.
Il y a beaucoup de maraîchers, on l'a dit, qui ont tout perdu. Est-ce que vous avez décidé de vous réunir pour faire un petit peu pression sur le ministère de l'Agriculture ?
Faire pression, je ne sais pas si c'est le mot, parce que c'est un peu agressif.
Oui.
En tout cas, on se réunit déjà dans un premier temps pour s'aider moralement à faire face à cette épreuve. se soutenir, être certain de ne pas laisser passer certaines infos,
ouais.
puisque c'est peut-être une source de stress supplémentaire. Donc, on se partage les informations, on se donne les documents à remplir pour les recensements des dégâts. Dans un second temps, on essaye de se soutenir pour débarrasser les serres cassées, réparer les serres qui peuvent être réparées.
Ouais.
Et dans un troisième temps, on verra si on doit agir pour se faire entendre. Aujourd'hui, grâce à vous, on arrive déjà à se faire entendre une première fois. On essaie d'apparaître dans les journaux pour sensibiliser la population et les consommateurs. Aujourd'hui, il n'est pas encore d'actualité de faire pression. On attend la visite du ministre de l'Agriculture. On espère qu'il prendra conscience du problème, de l'impact que ça, peut avoir sur les emplois, autant directs dans nos fermes que indirects via toutes les personnes, les entreprises qu'on peut faire travailler, autant en tant que fournisseurs que clients chez nous. S'ils prennent conscience de tout ça, je pense qu'ils auront les réponses adaptées. En tout cas, j'espère. On verra ça cette semaine.
Et il a prévu de venir, le ministre de l'Agriculture ?
Il sera présent dans les Côtes d'Armor jeudi et vendredi, normalement.
D'accord.
Si j'ai bien compris.
Donc il va faire un petit peu le tour des maraîchers ?
Oui, comme le président l'avait fait, comme le préfet l'a fait. Une fois passé le temps du constat, on espère que ce sera le temps de la réaction et du soutien, quoi.
Ouais, parce que il y a les serres, mais il y a aussi des bâtiments agricoles qui ont été touchés, des champs aussi. Vous, comment ça se passe au niveau de votre production ? Est-ce que vous avez des solutions ?
Alors aujourd'hui, il y a des assurances de perte d'exploitation. Le problème, c'est qu'on est dans une région quand même assez privilégiée. Donc tout le monde n'a pas pour le plein champ d'assurance de perte d'exploitation, sachant que ce qui est pris en compte par les assurances n'est pas toujours des problèmes qu'on rencontre dans la région. Aujourd'hui, on peut considérer, par exemple, sur une production de poireaux, que nous, on a perdu entre 30 et 40 % de la production. Certains ont pu perdre 100 %.
Ouais.
Ça fait partie aussi de notre quotidien, de ne pas faire 100 % de ce qu'on avait prévu. On a des cultures qui peuvent mal se passer, qui peuvent rester au champ, qui peuvent ne pas être vendues faute de clients. Ça arrive. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout s'accumule. Ce qu'on veut, c'est déjà réparer le structurel, parce qu'il n'y a pas que les tunnels. Il y a aussi des collègues qui ont des serveurs, qui ont eu beaucoup de carreaux cassés. Ça représente un sacré budget. Les bâtiments agricoles, notamment les exploitations laitières aussi. Tout le monde a été impacté et donc ça demande quand même un budget conséquent. Je pense que des budgets ont été débloqués pour bon nombre d'entreprises, de banques, etc. pour les soutenir. Je pense qu'on trouvera des solutions tous ensemble pour que on puisse continuer d'avoir l'impact social et environnemental qu'on peut avoir tous les jours.
Et est-ce que vous avez pensé à mettre aussi peut-être des cagnottes en ligne comme ça se fait beaucoup aujourd'hui?
J'y ai pensé. Je pense qu'on y pensera si jamais il n'y a aucune solution trouvée par les instances publiques ou privées via les assurances. Aujourd'hui, les clients nous rendent déjà énormément de services en continuant et en étant fidèles, en venant dans nos boutiques et en consommant français local. Espérons que ça dure. J'espère personnellement ne pas devoir arriver à cette solution. Je comprends ceux qui étaient en détresse et qui aujourd'hui, à l'instant T, ont besoin, parce qu'ils ont perdu 100% de leur outil de travail, ont besoin maintenant de pouvoir commander et avoir les garanties financières pour commander du nouveau matériel.
Ouais.
Moi aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la récolte de plein champ. Donc à l'instant T et dans les 2-3 mois qui viennent, la trésorerie ne sera quasiment pas impactée puisqu'on récolte du chou-fleur, etc. en plein champ. J'espère juste que d'ici le printemps et au moment où on devra planter les tomates et les cultures d'été sous serre, qu'on ait pu reconstruire quelque chose et qu'on ait été aidé avant ça. Sinon, oui, en effet, les cagnottes en ligne seront, j'ai envie de dire malheureusement, le dernier recours.
Ouais. C'est ce moment-là qui va être aussi le plus compliqué, hein. C'est le printemps. Hein.
Bah oui, parce que là, d'ici une semaine ou deux, on doit recevoir les plans qui devaient être mis en serre et qui serviront en récolte de printemps, les légumes primeurs, les pommes de terre nouvelles, etc. C'est des cultures qu'on va devoir réduire. Donc, comme quand je parlais de l'impact sur les clients ou sur notre environnement proche, c'est-à-dire qu'on va devoir sélectionner les cultures, donc garder les plus rentables, peut-être celles qu'on vend nous ici direct en magasin. Mais lorsqu'on fournit des cantines scolaires en légumes locaux et bio, et ben on essaye de leur faire des prix attractifs. Le problème, c'est que c'est peut-être ces gammes-là qu'on va supprimer en premier pour essayer de perdre le moins possible dans cette affaire. Et moi, ça m'embête de pas pouvoir proposer des salades bio aux gamins du coin sur le printemps, quoi. Donc, j'espère qu'on sera soutenu d'ici là aussi pour ça, pour avoir cet impact-là et pouvoir participer à la vie locale comme on essaie de le faire.
Ouais, alors d'être soutenu, c'est très important, mais avec le réchauffement climatique, est-ce que vous craignez qu'il y a d'autres tempêtes? Est-ce qu'il faut trouver aussi peut-être des serres plus solides?
Ben, on comprendra tous les leçons qu'on doit tirer de cette tempête. On voit que il y a peut-être les tunnels qui étaient dans une certaine exposition qui ont plié en premier. On voit que ceux qui étaient le pignon face au vent, dans le sens est-ouest, qui ont mieux tenu que ceux qui étaient perpendiculaires.
Ouais, ça dépend aussi dans quelle direction
on va le vent. Les leçons qu'on peut tirer. Après, le réchauffement climatique date pas d'hier et c'est la première fois qu'on.
Oui.
On note 200 km/h sur la pointe à Brest, quoi. Je pense qu'on n'y sera pas tous les ans quand même. Bon. Après, s'il y a des leçons à tirer, on les tirera. Je pense que les constructeurs doivent passer nous voir aussi rapidement.
Ouais.
Et ils seront à même de eux aussi constater les dégâts et de peut-être prendre des mesures sur leur matériel pour que ce soit plus résistant. Ouais.
Pour finir, on va parler aussi de votre façon de travailler, puisque vous allez travailler en serre quand la météo est un petit peu capricieuse, quand il pleut, et dans vos champs quand il fait beau, et donc là forcément ça va être plus compliqué.
Bah, c'est vrai qu'on essaye, nous, avec les. Donc, comme vous le disiez, on a 10 salariés, on sait que nos serres aujourd'hui représentaient en hiver minimum une journée de travail par semaine.
D'accord.
On parle aujourd'hui de conditions de travail, de réussir à garder de la main-d'œuvre qualifiée. Je sais que quand on regarde la météo le dimanche et qu'on voit qu'il y a une journée de très mauvais temps qui s'annonce dans la semaine, et ben on va garder le travail en serre pour cette journée-là. Il faut savoir que demain, alors d'accord, c'est notre métier et on sait le faire, mais demain on va devoir donc aller 5 jours sur 5 en plein champ, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, quoi.
C'est ça.
Et donc voilà, c'est aussi. Outre l'aspect moral de voir des serres détruites à côté, on a aussi cet aspect de savoir que l'hiver va être plus rude un petit peu que les autres, quoi.
Très bien. Bah, merci beaucoup, Alexandre Lebéchette, d'avoir été ce matin sur Millennium. Et on espère que le ministre de l'Agriculture, qui va passer jeudi et vendredi dans les Côtes d'Armor, va vous écouter et trouver des solutions.
J'espère aussi. Merci à vous.
Merci. Très bonne journée et bon courage.
Au revoir.